Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, j'ai sous les yeux un livre d'une dimension un peu plus grande que d'habitude et ce livre s'intitule Périgord illustré de Michel Légrier et les textes sont de Guy Penon. Alors, ça a été édité par Art et Trésor du Périgord en 2016. Voilà, bon, c'est pas très récent, mais c'est un très joli livre, donc très bien illustré, évidemment, par Michel Négrier. Alors, il y a un rabat, alors sur ce rabat, il y a l'ouvrage, évidemment. Alors, quel magnifique voyage dans le temps nous est offert par cet artiste peintre du Périgord. Il nous entraîne au fil des pages, de château en abbaye, de la ville capitale du Périgord au plus humble bourg, à travers les siècles, grâce à son imagination et à son talent, il nous fait revivre tout ce qui fait le charme de cette province, le bonheur d'y vivre, la beauté de ses monuments et la truculence de ses habitants. Ses dessins d'une richesse et d'une malice unique nous font découvrir un monde merveilleux et attachant que l'artiste est heureux de nous faire partager. Alors Michel Négrier, évidemment, l'illustrateur natif du Périgord, cet artiste dont l'œuvre est reconnaissable entre toutes, consacre depuis de très nombreuses années dans son atelier de Périgueux tout son temps au dessin, à la peinture. Son style unique, son imagination fertile et son œuvre abondante ont été consacrées dès 1970 par le prix de la Fondation pour l'avenir du Périgord, initié par Sylvain Floirat. Et encore tout récemment par le prix de peinture Clusot-Lanove 2016, décerné à l'unanimité en septembre 2016 par l'Académie des Lettres et des Arts du Périgord. Alors bien sûr, il y a Guy Penon qui a fait les textes de ce livre. Alors pour accompagner les œuvres de l'imagier du Périgord, il a été fait appel à cet historien du Périgord, auteur de très nombreux ouvrages sur cette contrée, ses monuments, ses hommes les plus célèbres ou les événements qui ont marqué sa riche histoire. Et puis Patrick Lagrange, lui, il a fait des recherches documentaires, collaboration, la rédaction des légendes et suivi de l'édition. Alors, l'édition, évidemment, comme je disais, c'est Art et Trésor du Périgord. Et donc, le titre de ce livre, Périgord illustré, de Michel Négrier. Alors, il y a, bien sûr, une préface d'Antoine Audy, qui était à l'époque maire de Périgueux. Alors, ce qu'il nous dit, graveur, illustrateur, caricaturiste, Michel Négrier est l'artiste complet d'une catégorie dans laquelle d'autres périgourdins s'illustrèrent avant lui. On passe bien sûr à Sem et à Maurice Salme. Il fait partie de ces imagiers qui sont entrés dans notre patrimoine collectif. Depuis plus de 50 ans, il nous enchante en croquant avec malice la comédie humaine dans les plis et les replis des travaux de ses jours. Chez lui, les cheminées fument, les fenêtres sont fleuries, les chiens goguenards, les chats facétieux et lisses poissonneuses. Ce fond naïf saisit la vie dans ses débordements, ses outrances, ses coquineries. C'est pourquoi le maillonnage lui va comme un gant, vecteur de son imaginaire, ici complet en mettant en scène farce et paillardise, des fêtes populaires, évidemment. On ne peut s'empêcher alors de penser à Bruegel ou Peter van der Heyden, quand il peigne une kermesse ou une fête des fous. Son trait, aussi fin que de la dentelle, se met au service d'une exubérance satirique qui rappelle le Brassens qui nous narrait l'hécatombe du marché de Brive, la gaillarde où, pour une botte d'oignons, une douzaine de gaillards se crépèrent un jour le chignon. Alors je pense que personne n'a oublié cette chanson. Alors le temps n'a aucune prise sur son univers, hier se confond avec l'aujourd'hui, dans ses propos allégoriques et intemporels. Si Périgueux et le Périgord sont des figures favorites, la maîtrise de son art rend son trait universel. Autant de raisons de rendre hommage à un homme qui n'a cessé de crier son amour à la ville qu'il a vu naître. Alors, ce texte est signé, bien sûr, Antoine Audy, qui était maire de Périgueux, premier vice-président du conseil régional du Grand Périgueux. Et alors, il y a un texte assez long de Guy Penon. Alors Guy Penon, ben, chevalier de la Légion d'honneur et chevalier des arts et lettres. Alors, Michel Négrier est artiste peintre imagier du Périgord. S'il y a une région de France où l'homme a marqué l'histoire, le Périgord est la plus parfaite illustration. des temps les plus reculés, la période moderne, partout où il a laissé sa trace, par les gravures ou les peintures préhistoriques qui ornent ses grottes, les villes ou temples élevés par l'envahisseur venu de Rome, les nombreuses églises romanes dont beaucoup de bourgs peuvent encore s'enorgueillir, les mille et un châteaux plantés ça et là au détour d'un chemin, ou surplombant les cours d'eau, les bassines vestiges du temps où les Français et les Anglais se disputaient le contrôle du territoire. Il y a aussi ces profondes forêts, refuges au siècle dernier, des maquisards, mais aussi la vaste campagne, territoire de sa prospérité avec ses vignes, ses élevages, sans oublier ses rébellions avec les croquants et la figure emblématique, évidemment, de Jacou le croquant. Alors pour restituer la richesse et la diversité de ce passé, il fallait un artiste amoureux de sa contrée, un dessinateur, maître dans l'art de nous émouvoir, un peintre assez habile pour faire surgir de son pinceau et de ses crayons les grands et petits moments de la vie de nos ancêtres, mais aussi assez malicieux pour nous surprendre à chacune de ses œuvres par un détail saugrenu, un trait de génie ou une touche cocasse dans un style reconnaissable entre tous et qui appartient qu'à lui. Michel Négrier, tout en respectant les monuments et les sites, tous plus emblématiques qui nous enchantent, comme auraient séduit ceux qui ont parcouru avec bonheur le Périgord il y a bien des années, de Laurent Zarabi à André Malraux, en passant par Henri Miller. Tous ont aimé cette région et ont laissé quelques pages remarquables à sa gloire. Michel Négrier l'aime autant et la peint méticuleusement pour lui rendre hommage à sa manière incomparable, celle d'un imagier des temps modernes qui se baladerait à travers les siècles passés avec un bonheur renouvelé. Il nous réchauffe le cœur, il éveille notre esprit, titille l'innocence, il nous surprend par des scènes paillardes et nous rappelle plein de souvenirs heureux. En définitive, il nous fait voyager dans un monde tantôt merveilleux, tantôt tragique, où les hommes et les femmes passeraient sous nos yeux émerveillés d'un siècle à l'autre avec leur joie, leur peine. Lors de leur bonjour, leur mauvais moment avec de petites et de grandes choses de la vie. Et puis soudain, au détour d'une toile, les bâtisses et les arbres prennent forme humaine et nous invitent à imaginer ce qui serait un monde créé par un artiste inspiré. Alors Michel Négrier, le pugiliste dessinateur du temps passé, il fut en 1970 lauréat de la Fondation de l'Avenir de Périgord, comme je viens de le dire, initié par Sylvain Florent. Le prix qui lui fut remis par Marcel de Saint-Banchet doit être bien heureux dans son atelier du quartier Saint-Georges de Périgueux de se promener dans le Périgord aux quatre couleurs avec la rigueur d'un historien, parce que tous ses dessins ou peintures sont le reflet de la réalité, mais aussi avec tendresse et malice. Ils transparaissent soudain dans l'encoignure d'une fenêtre au milieu d'un marché animé dans le coin d'une abbaye ou l'ombre de quelques châteaux. Et les châteaux sont nombreux en Périgord. Alors ces monuments s'animent soudain grâce à tous ces personnages truculents, pauvres paysans ou nobles châtelains, hommes fouillant la terre à la recherche de maigres pitances ou de truffes, femmes plantureuses fichues sur la tête et la robe longue, s'invectivant, moines bedonnants et hélas, artisans, commerçants, ouvriers à la tâche et tous ces héros des temps de guerre ou de révolte paysanne. Savourez bien toute l'œuvre de celui qui cache son humour tout britannique sous un masque de sévérité feinte. Retrouvez ou découvrez les monuments les plus remarquables du Périgord et détaillez tous les personnages ou animaux de nos campagnes qui peuplent à foison ces peintures. Vous serez enchantés et sans doute vous direz-vous que s'il est un homme qui à lui seul a réussi à nous entraîner dans ce pays chéri des dieux avec une passion et un talent unique et à le restituer dans sa pluralité, c'est bien Michel Négrier qui enchante et illumine pour notre grande joie l'imaginaire périgordais collectif depuis plus d'un demi-siècle, ainsi que l'a fort justement écrit un académicien jadis maire de Périgueux. Voilà. Alors il y a, bon, je vais vous passer un peu le texte, et il y a une phrase à la fin. Suivez-nous, ou plutôt suivez-le au fil des pages de cette promenade illustrée à la gloire des Périgourdins, du Périgord et de ses multiples recherches. Alors, bon, bien sûr, alors on va passer un petit peu. Et il y a, bien sûr, ça, on parle de la préhistoire. La préhistoire, évidemment, c'est le Périgord. Alors, il y a la chapelle Sixtine, c'est-à-dire Lascaux. La chapelle Sixtine, la préhistoire, est notamment célèbre pour ses 600 magnifiques peintures de rocs, chevaux, cerfs, etc. Elle comprend environ 1500 gravures traitant essentiellement du cheval. La grande salle au taureau révèle les plus grandes gravures de l'aide glaciaire jusqu'à 5 mètres de longueur, avec plusieurs figure d'Auroch. On peut y découvrir une peinture représentant un homme à tête d'oiseau dans le, je crois que c'est dans un puits. Voilà, alors un bison blessé, un rhinocéros, et plus de 150 fragments de pigments et outils de nombreuses lampes et de traces d'échafaudage à datation carbone 14 donnent une période se situant entre 8000 et 17000 ans. Il semble établir que nos ancêtres n'ont jamais vécu dans cette grotte, mais elle est utilisée pour des rites et des activités artistiques. Alors, quand je pense à la grotte de Lascaux, ben, tout le monde a dû la visiter, et maintenant je crois que c'est Lascaux 3. C'est Lascaux 3 qui est à voir. Alors, bien sûr, il y avait la chasse. Alors, la préhistoire, la chasse du mégacéros, un mégacéros appelé autrefois grand cerf des tourbières, a été un des plus grands cervidés de tous les temps. Il ressemblait à un daim de grande taille et ses bois mesuraient jusqu'à 3,50 m d'une extrémité à l'autre. Il a vécu dans toute l'Europe et dans une grande partie de l'Asie pendant un demi-million d'années avant son extinction récente. Sa chasse par l'homme préhistorique nécessitait bien du courage et une entraîne sans faille entre les hommes de même clan. Alors, bon, il y a le cheval de Lascaux, on en a déjà parlé, et puis bon, il y a des scènes de chasse et il y a des scènes de pêche. Alors, ça, c'est moins courant. Pour se nourrir au paléolithique, l'homme préhistorique devait en particulier pêcher. La situation des campements seulement préhistoriques à proximité des rivières et des fleuves démontre l'intérêt des hommes de cette époque pour des ressources d'eau douce. Les poissons étaient des aliments presque à profusion tout au long de l'année. Si la pêche à la nasse ou au filet réclamait un certain savoir-faire en termes de tissage, la pêche avec des harpons attachés au bout d'une lance devait nécessiter une grande agilité et rapidité pour surprendre et attraper les poissons. La joie devait être grande en cas de pêche abondante. C'est bon le poisson. Et puis on va toujours à la pêche en famille, il y a le retour de chasse, et puis il y a bien sûr, il faut quand même quelques armes, il faut pouvoir titiller le poisson, ou les animaux préhistoriques. Alors, la préhistoire, il y a la taille du silex. Alors, pour le différencier du règne animal, on attribue souvent à l'homme et à ses ancêtres des capacités et des aptitudes spécifiques. Le langage, le développement cérébral et aussi la fabrication d'outils, même si l'on trouve toujours une espèce animal qui montre des capacités dans des domaines réservés à l'espèce humaine, avec des outils primaires, c'est-à-dire des objets qui, sans transformation, étaient utilisés comme outils. Ceux-ci secondaires étaient fabriqués avec l'aide d'un autre outil. Dans ce cas, une pierre utilisée comme percuteur permettait de façonner ou tailler une autre pierre, par exemple un silex, et d'en faire une arme. Voilà. Alors, il fallait bien quand même... il fallait pouvoir aller à la chasse. Alors, bien sûr... il y a des campements, et puis, bon, il y a les hommes et il y a les femmes aussi. Alors, les femmes en tant que compagnons, les femmes et les hommes de la préhistoire n'avaient pas choisi de vivre uniquement dans les grottes. Cette image d'épinal persiste pourtant dans l'esprit des néophytes, et on les voit souvent dans des gravures sortant d'une grotte à la recherche de nourriture. Des cabanes circulaires de 3 mètres de diamètre dont les vestiges ont été retrouvés démontrent la variété de leur habitat, tandis que les hommes chassaient, les femmes restaient au foyer, préparaient les repas et s'occupaient des enfants ou réparaient les filets de pêche. Ah ben, de toute façon, chacun son travail. Alors, bien sûr, il y a d'autres choses, on va remonter un peu le temps, mais ça, ben, on le fera à partir, ben, je pense, de la prochaine fois. Et donc, c'était le Périgord illustré de Michel Négrier avec des textes de Guy Penaud, et c'est publié aux éditions Art et Trésor du Périgord en 2016. Mes souvenirs sont bons. Mais moi, je vais vous souhaiter, presque de bonnes vacances, hein, parce que le mois de juillet est là, et les vacances vont commencer. Donc, beaucoup de soleil, et à bientôt.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.